Bonjour et bienvenue pour ce 4e épisode de Parce que la science n'attend pas, votre émission hebdomadaire qui commente l'actualité scientifique. On commence sans plus attendre par notre premier sujet qui concerne l'annonce de l'entreprise Tesla de la mise sur le marché d'une nouvelle batterie au lithium qui devrait servir de chargeur de téléphone. Qu'est-ce que c'est qu'une batterie au lithium ? Vous ne le savez peut-être pas, mais ce sont les batteries les plus utilisées au monde. On en trouve partout, dans tous les appareils électroniques, dans les voitures électriques ou comme moyen de stocker de l'électricité. Tout d'abord, une batterie, qu'est-ce que c'est ? C'est une petite cellule remplie de produits chimiques qui peut servir de pile, mais qui peut également être rechargée, contrairement aux piles classiques. Les batteries sont constituées de plusieurs choses. D'électrodes, qui sont des solides chargés de la conduction du courant, d'un électrolyte et de couples redox. Alors un couple redox, c'est un couple d'espèces chimiques qui réagissent entre elles en échangeant des électrons. Ces espèces chimiques sont contenues dans ce que l'on appelle l'électrolyte. Le principe d'une batterie est très simple. On oblige les électrons à passer par un circuit extérieur à la batterie, ce qui permet d'obtenir un courant électrique. Pour la recharger, il suffit au contraire de fournir un courant électrique. Les batteries au lithium sont de différents types en fonction de la nature de leur électrolyte. Les batteries lithium-ion utilisent une solution comme électrolyte, tandis que les batteries lithium-polymère utilisent un gel de polymère. On va s'intéresser à présent à la batterie lithium-ion, car c'est celle qui est le plus utilisée aujourd'hui. Elles sont constituées de deux électrodes, une cathode, en oxyde de cobalt, et une anode, en graphène. Sa première apparition remonte aux années 1990, quand l'idée d'utiliser le lithium, qui est une espèce oxydoréductrice très réactive, apparaît. Ce type de batterie utilise la migration d'un ion Li+, qui s'insère soit entre les couches du graphène, soit entre celles de l'oxyde de cobalt, migration qui s'accompagne de celle d'un électron que l'on force à passer par le fameux circuit externe. Les batteries lithium-ion utilisées actuellement permettent de délivrer des tensions d'environ 3 à 4 volts, tout en présentant des conditions d'utilisation douces et sécurisées. Le développement des batteries lithium-polymères est en pleine explosion, mais il se heurte à des problèmes d'utilisation, température haute nécessaire par exemple, et de sécurité, risque d'explosion important notamment. Le tour de force qu'a réussi Tesla est celui d'avoir adapté le modèle de batterie utilisé pour leur voiture au téléphone portable. Malgré cela, le chargeur en lui-même présente des caractéristiques tout à fait banales, et pensez bien que sur les 40 euros qu'il vous coûtera, seulement 5 euros ont servi à sa fabrication. Cette annonce a presque réussi à masquer la vraie découverte dans le monde des batteries réalisée cette semaine. En effet, le discret John Goodenough, considéré comme le père de la batterie lithium-ion, a publié dans un article qu'il travaillait à l'université du Texas sur un nouveau type de batterie qui pourrait jusqu'à tripler les performances des batteries actuelles. Ce nouveau type de batterie est appelé batterie à électrode solide. Et comme son nom l'indique, la véritable avancée consiste en l'abandon de l'électrolyte liquide classique pour l'emploi d'un électrolyte solide à base de verre. Un des avantages présentés par ce type d'électrolyte est qu'il permet d'éviter la formation de dendrites. Lorsque des cycles de charge et de décharge de la batterie, il est possible que les ions Li+ deviennent du lithium métallique. Il se forme alors des excroissances de métal entre les deux électrodes. Le danger, c'est que si les deux électrodes sont reliées entre elles, cela produit un court-circuit dans la batterie qui peut mener à son explosion. L'électrolyte solide diminue la formation de dendrites et pourrait permettre une utilisation prolongée de la batterie jusqu'à moins 20 degrés Celsius, ce qui est irréalisable aujourd'hui. De plus, le lithium pourrait bien laisser sa place au sodium, ce qui pourrait représenter un énorme avantage en termes de productivité tout en respectant l'environnement, le sodium pouvant être obtenu par évaporation de l'eau de mer, alors que le lithium est plus difficilement extractible. Finalement, c'est une batterie plus performante, plus résistante, moins chère et plus sécurisée que nous propose le père de la batterie lithium-ion. La grande inconnue du problème reste la date de sortie de cette nouvelle batterie. On passe immédiatement à notre deuxième sujet qui fait plutôt froid dans le dos. Le neurochirurgien italien Sergio Canavero a annoncé avoir réussi la première greffe de tête humaine post-mortem. Lors d'une opération de près de 18 heures, deux équipes de 5 chirurgiens se sont affairées sur deux cadavres donnés à la science pour échanger leurs têtes. La trachée et l'œsophage ont été reliés, ainsi que plusieurs vaisseaux sanguins afin de restaurer l'irrigation sanguine du cerveau, puis la peau a été recousue. Pour permettre la stabilité de la tête nouvellement posée, une plaque de titane a été fixée aux vertèbres cervicales 3 et 5. Sergio Canavero est connu pour avoir comme but ultime une greffe de tête entre deux donneurs vivants, et ses méthodes sont assez controversées. L'annonce en juin de cette année de la réussite d'une greffe de tête chez les rats lui avait accordé une certaine crédibilité, mais la communauté scientifique est unanime quant à l'opération menée cette semaine. Elle est considérée comme non nécessaire et ne démontrant pas la faisabilité d'une telle opération. Sont remis en cause l'absence de sang, et donc l'absence de problèmes liés à l'arrêt de la circulation sanguine lors de l'opération, qui devrait sans doute rallonger sa durée, et également les méthodes pour reconnecter les moelles épinières. Lors de l'expérience avec les rats, le neurochirurgien avait utilisé du polyéthylène glycol, dont l'emploi chez l'être humain semble assez inapproprié. Cette quête de la greffe de tête a vu le jour après l'annonce en 2015 qu'une greffe de neurones chez la souris avait été réussie. Des neurones du cortex visuel, créés en laboratoire à partir de neurones souches, ont été greffés chez des souris atteintes et 3 à 9 mois plus tard, la majorité des rongeurs avaient recouvré totalement ou partiellement la vue. Ce qui avait donné de grands espoirs à notre neurochirurgien qui s'était empressé de dire, je cite, que le génocide à grande échelle imposé par la nature à l'homme, avec près de 110 milliards de victimes, avait trop duré et qu'il était temps de prendre notre revanche. Apparemment, il semble oublier que l'approvisionnement de corps sains reste un problème, mais d'après lui, ce n'en est pas vraiment un, nous trouverons assez vite une solution. Évoquons à présent deux faits remarquables dans des registres un petit peu plus joyeux. Premièrement, des chercheurs américains et coréens ont développé une ampoule au graphène. D'une épaisseur d'environ 1 micromètre, ce nouveau type d'ampoule est constitué de deux électrodes en dioxyde de silicium, reliées par une couche de graphène. Quand on applique une tension aux bornes des électrodes, le graphène est excité et émet une lumière très intense en chauffant à près de 2500 degrés Celsius. En plaçant sous le graphène une surface réfléchissante de silicium et en modifiant la distance entre celle-ci et le graphène, seules certaines couleurs sont émises, ce qui laisse à penser que cette ampoule pourrait bien être utilisée dans les technologies mobiles très bientôt. Un dernier avantage, le graphène ne fond pas, ce qui ne pose pas de problème de stockage et la chaleur n'est pas communiquée au reste du circuit, ce qui en fait un produit très fiable et sécurisé. Toujours dans la course à la fabrication de matériaux très fins, des chercheurs australiens ont développé une nouvelle méthode pour produire des couches d'oxyde de métaux épaisses de quelques atomes seulement. Le principe est simple, on dissout le métal voulu dans une matrice d'un alliage de gallium fondu. La réaction entre le gallium et le métal va former une couche d'oxyde métallique à la surface de la goutte. Il ne reste plus qu'à faire glisser cette goutte sur une surface lisse pour qu'elle laisse dans son sillage une couche d'oxyde de métal épaisse de quelques atomes seulement, comme la mine d'un crayon qui ne laisse qu'un feuillet de graphène sur une feuille de papier. Cette technique pourrait être utilisée dans la production de surfaces ultra-fines conductrices qui pourraient permettre une miniaturisation encore plus poussée des circuits intégrés de la plupart de nos appareils électroniques. Ainsi s'achève ce quatrième épisode, on se retrouve la semaine prochaine parce que la science n'attend pas.